Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Pour cette nouvelle série d'émissions, nous accueillons Marie-Christine Loubry, conteuse, et aujourd'hui, le conte qui nous intéressera est celui des six cygnes que l'on peut retrouver dans l'œuvre des frères Grimm.
Il était une fois un roi qui adorait la chasse. Ce jour-là, il était parti avec ses compagnons et ils étaient dans la forêt quand il a aperçu un cerf. Alors il a talonné son cheval et il est parti au galop. Ses compagnons le suivaient, mais lui, il allait tellement vite et il passait entre les arbres, il sautait des troncs, il passait des rivières. Ses compagnons l'ont perdu. Il a continué de galoper dans la forêt et tout à coup, il n'a plus vu le cerf. Il s'est retrouvé au milieu d'une clairière, un endroit qu'il ne connaissait pas, où il n'était jamais venu, les arbres étaient hauts, on n'y voyait plus beaucoup le soleil qui commençait à se coucher, il était fatigué, son cheval était couvert de sueur. Il aperçut devant lui une silhouette qui s'approchait. C'était une vieille femme, toute courbée, avec un bâton. Il lui a dit « Brave femme, tu pourrais m'indiquer comment sortir de la forêt ?»« Oh oui, je le pourrais. Je le pourrais, mais à une condition. »«
Laquelle ?»«
Eh bien, c'est que vous me promettiez d'épouser ma fille. Vous verrez, elle fera une très belle reine. » Le roi regardait autour de lui. Il était vraiment perdu. Il était tellement fatigué. Il a dit « D'accord, j'accepte. » Alors il a suivi la vieille femme, qui l'a emmenée jusqu'à une petite maison dans la forêt. Là, il a attaché son cheval, il est entré à l'intérieur et devant la cheminée où il n'y avait pas de feu, il y avait une grande jeune femme qui se tenait là. Oh, elle était belle. Elle s'est avancée vers lui. Elle lui a tendu la main et quand il a pris la main de la jeune femme, cette main était toute glacée. Et son cœur au roi, il s'est serré, il l'a regardé, mais... Eh ben oui, il avait promis. Alors ils sont sortis tous les deux, ils sont montés sur le cheval et puis la vieille leur a indiqué comment sortir de la forêt. Ils n'ont pas dit un mot pendant le trajet du retour. Et arrivé au château... Le roi a dit « Nous célébrerons le mariage dans 3 jours. » Mais le roi avait déjà été marié. Il avait 6 garçons et une fille. Et il n'avait pas envie que ses enfants vivent avec cette femme, alors il est allé voir une fée dans la forêt. Et il a dit à la fée comment faire pour les protéger, pour qu'ils soient en sécurité. La fée lui a répondu « Oh, mais on va les installer dans un château magique au milieu de la forêt. » Et pour aller au château, il faudra une pelote de laine. Et la pelote mènera jusqu'au château. Tenez. Il a pris la pelote. Et puis on a installé les enfants dans le château magique au milieu de la forêt. Et le mariage a eu lieu. Les jours ont passé, le roi allait à la chasse, le roi lançait la pelote de laine et trouvait le chemin pour arriver au château et voir ses enfants. Mais sa femme s'est dit quand même, qu'est-ce qu'il fait? Bon, d'accord, il va chasser, mais les jours où il va pas chasser, où est-ce qu'il s'en va? Il est jamais là, je le vois pas. Alors elle a posé des questions, elle a cajolé, elle a fait des cadeaux, et puis elle a fini par apprendre que le roi avait eu des enfants et qu'ils étaient cachés dans un château magique au milieu de la forêt, et que pour y arriver, il fallait une pelote de laine. Et elle a fini par trouver la pelote de laine. Un jour, où le roi était bien à la chasse, elle a pris la pelote et elle est sortie, elle l'a lancée devant elle et elle a suivi le fil. Et elle est arrivée devant un château de pierre grise. À l'intérieur du château, dans la cour, il y avait des 6 garçons qui jouaient. Et puis, En haut, dans une chambre, il y avait la fille qui brodait et puis qui, de temps en temps, regardait ses frères en bas. Les frères ont regardé par la grande porte et ils ont vu une ombre au-delà du pont-levis. Ils se sont dit « Tiens, ben, ça doit être notre père qui vient nous dire bonjour ». Alors ils ont couru et puis ils se sont retrouvés face à cette femme qui était grande et belle. La reine, sur son bras, elle avait 6 chemises. Et elle a lancé chaque chemise sur les garçons. Et quand une chemise touchait l'un d'entre eux, ses bras s'allongeaient, se recouvraient de plumes, tout son corps se recouvrait de plumes et tous les 6, ils se sont transformés en cygnes. Ils ont poussé des cris et puis s'envolaient dans le ciel. Et la fillette, elle, à la fenêtre de sa chambre, elle a vu les oiseaux dans le ciel. Et quand elle a regardé dans la cour, il n'y avait plus personne. Elle est descendue, elle a appelé ses frères, mais personne n'a répondu. Et de l'autre côté du pont-levis, elle a vu une silhouette qui s'éloignait. Et par terre, elle a ramassé des plumes de cygne. Le lendemain, il y a son père qui est venu et qui a demandé où étaient ses frères. Et elle a dit qu'ils avaient disparu, elle ne savait pas où ils étaient, qu'il y avait des cygnes qui s'étaient envolés dans le ciel. Et le père lui a proposé de l'emmener avec lui, elle a dit non, je préfère rester ici. Et lui, il est rentré dans son château. Elle a tourné un peu en rond et puis elle s'est dit « Je vais aller chercher mes frères, ils doivent bien être quelque part. » Elle a marché dans la forêt toute la journée, toute la nuit. Et puis le lendemain matin, elle était fatiguée. Et quand elle a vu une cabane, elle est entrée à l'intérieur. Elle a monté un escalier, il y avait une chambre avec 6 lits. Elle a posé se coucher sur un lit, elle s'est glissée sous l'un d'entre eux et puis elle a commencé à s'endormir. Quand elle a entendu du bruit, elle a regardé, et à la fenêtre, il y avait un cygne qui entrait. Et puis un deuxième, un troisième, un quatrième, 5, 6. Ils ont secoué leurs ailes, secoué leur cou, et toutes les plumes sont tombées. Et devant elle, elle a vu ses 6 frères. Elle est sortie de sous le lit, elle les a embrassés, elle a dit « Ben voilà, ben maintenant on peut rentrer à la maison. » Non, on ne peut pas rentrer. On redevient des hommes juste pour un quart d'heure. Et puis le reste du temps, nous sommes des cygnes maintenant. Ben oui, mais comment faire pour que tout redevienne comme avant, pour que vous soyez à nouveau mes frères? Oh, ce serait bien difficile. Il faudrait que tu ne parles pas, que tu ne ris pas pendant 7 ans. Et puis il faudrait aussi que tu nous couses des chemises en fleurs d'étoiles. Tu vois, c'est beaucoup trop difficile. Et puis maintenant, on va redevenir cygne et toi, tu ne peux pas rester ici, c'est une maison de brigands, il faut que tu partes. Et alors, les 6 frères se sont recouverts de plumes et ils se sont envolés par la fenêtre. Elle les a regardés partir dans le ciel. Et puis elle s'est dit, mais je ne veux pas les laisser comme ça, non, moi je les sauverai, je ferai ce qu'il faut, mais ils redeviendront mes frères. Elle a quitté la maison, elle a marché dans la forêt et elle a trouvé un arbre qui lui convenait, elle a grimpé, puis elle s'est installée au creux du tronc. Et puis les jours ont passé, elle a commencé à cueillir des fleurs d'étoiles et puis elle a commencé à tisser. Bon, elle riait pas, c'était pas drôle, puis elle parlait pas, il y avait personne. Et les jours ont passé. Jusqu'au jour où le roi du pays passait par là, avec ses compagnons. Et il y a un des compagnons qui a vu quelque chose bouger dans un arbre et il a vu la jeune fille. Alors il lui a dit, bah descends, reste pas là-haut, descends donc. Elle a secoué la tête et lui, il insistait. Elle a enlevé sa ceinture, elle lui a acheté sa ceinture. Il a dit, mais c'est pas ça que je veux, descends. Et alors elle a fini par enlever ses bas, sa robe, elle s'est retrouvée en chemise dans l'arbre et lui, il insistait toujours. Et comme elle descendait pas, bah, il est monté puis l'a ramené par terre. Le roi s'est approché, il lui a demandé comment elle s'appelait, ce qu'elle faisait là, elle répondait pas. Il a essayé de parler dans plusieurs langues, elle répondait toujours pas. Ouais, il l'a trouvée bien belle. Alors il lui a mis son manteau sur les épaules et il l'a installé devant son cheval et il l'a emmené à son château. Puis quand il est arrivé au château, la mère du roi a dit « Mais qui c'est celle-là, d'où est-ce qu'elle sort ?» lui dit qu'elle était perdue dans la forêt et qu'il l'avait secourue. Et la jeune fille est restée avec eux. Elle dînait le soir avec le roi et la mère du roi. Et puis dans la journée, ils allaient se promener. Au début, il lui prenait le bras et puis après, il lui prenait la main. Et puis un beau jour, il lui a demandé si elle voulait l'épouser. Elle a hoché la tête pour accepter. Et ils se sont mariés. Mais avant, la mère du roi a dit « Mais enfin quand même, tu as vu cette femme, tu sais même pas d'où elle sort, elle parle pas, si ça tombe, elle est complètement stupide et tu veux en faire une reine, tu n'y penses pas. » « Mais si, j'y pense. » « Enfin, mon fils, t'es pas sérieux ?»« Oh si, c'est celle-là que j'épouserai, et nulle autre. » Et les mois ont passé, et au bout d'un an, la jeune reine a mis au monde un garçon. Quelques jours plus tard, l'enfant était dans le berceau, la jeune reine se reposait dans son lit. Et la vieille reine est descendue aux cuisines, elle a pris le sang d'un poulet qu'on venait de tuer, elle l'a mis dans un bol, elle est montée jusqu'à la chambre de la jeune reine. Elle a barbouillé les mains de la jeune reine de sang, elle en a mis sur les draps, et puis elle en a mis autour de sa bouche. Elle s'est approchée du berceau, elle a pris l'enfant. Quand elle est sortie, l'enfant a poussé un cri. Alors la jeune reine s'est réveillée, elle a vu une ombre qui sortait. Elle s'est levée, elle a regardé dans le berceau, il était vide. Elle a ouvert la bouche, elle a ouvert grand les yeux. Les larmes ont coulé. Mais il n'y a pas eu un seul cri, pas eu un seul mot qui est sorti de sa bouche. Et peu de temps après, la vieille reine et le roi sont entrés dans la chambre et la vieille reine a dit « Tu vois mon fils, regarde ta femme, regarde ce qu'elle a fait. Elle a mangé ton bébé, elle l'a mangé, c'est une ogresse, il faut t'en débarrasser. » Et il lui a dit « Non, c'est pas possible, elle a pas pu faire ça. » Il s'est approché de sa femme, ils se sont regardés. Il a dit « Non, c'est pas elle. » Et puis les jours ont passé. Elle continuait à tisser les fleurs d'étoiles, elle a commencé à coudre les chemises. Et puis au bout d'un an, elle a mis au monde un deuxième garçon. Et pendant qu'elle se reposait, la vieille reine est allée chercher du sang à la cuisine. Elle a mis du sang sur la jeune reine, sur les draps, et elle a pris l'enfant. Et puis quand elle est sortie, la jeune femme s'est réveillée, elle a vu le berceau vide et elle a pleuré. Mais elle n'a rien dit. Et la vieille reine est arrivée avec son fils. Elle dit « Regarde, regarde, ça fait le deuxième qu'elle te mange. Tu vas pas la garder ?» Alors lui s'est approché de sa femme et il a dit « Mais non, mais si elle pouvait parler, elle nous expliquerait. » Et les mois à nouveau ont passé. Et puis elle a mis au monde un troisième garçon. Et pour la troisième fois, la vieille reine l'a barbouillé de sang et a pris l'enfant. Quand la jeune femme a vu à nouveau le berceau vide, elle n'a rien dit. Elle a juste pleuré. Alors la vieille femme est arrivée avec le roi et elle a dit « Regarde, quand même, là, ça fait le troisième, tu peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. » Le roi s'est approché de sa femme et lui a dit « Cette fois-ci, je peux plus rien pour toi. Tu vas être jugée. » Elle a été jugée. Et elle a été condamnée à être brûlée dans la cour du château. Et le jour où elle devait être brûlée, c'était le dernier jour des 7 années où elle ne devait ni rire, ni parler. Et elle avait presque fini de coudre les chemises. Il y avait juste la dernière chemise où il manquait la manche. Elle a ouvert le coffre où elle gardait les chemises. Elle les a prises, les a posées sur son bras, puis elle est sortie dans la cour. Elle s'est approchée du bûcher. Et à ce moment-là, il y a eu du bruit dans le ciel, des battements d'ailes, des cris d'oiseaux. Elle a levé la tête et elle a vu des oiseaux blancs. Elle a vu 6 cygnes qui s'approchaient. Alors elle a souri, son visage s'est éclairé. Et elle a ri. Les cygnes se sont posés à terre. Et quand ils se posaient, elle lançait une chemise sur chacun d'entre eux. Et quand les chemises les touchaient, Ils redevenaient des hommes, des jeunes hommes, jeunes et forts, ses frères. Il y avait juste le plus jeune. À la place du bras gauche, il avait une aile de cygne. Alors ils se sont embrassés et puis elle s'est approchée du roi, son mari, et elle lui a dit « Je n'ai jamais touché un seul cheveu de nos enfants, c'est la vieille reine qui les a pris. » Et en effet, on les a retrouvés. Elle les avait cachés dans une forêt, dans une cabane dans la forêt. Et la vieille reine est montée sur le bûcher et a péri brûlée. Quant à la jeune reine, elle a vécu avec son mari et ses six frères. Ils sont restés au château et ils ont vécu très heureux, très longtemps.
Christine, et merci pour ce bon et beau moment de parole. Bonjour docteur Dominique Desmichel. Je rappelle les règles que nous nous sommes imposées pour ces émissions, c'est-à-dire que vous n'étiez pas au courant du choix de Marie-Christine. Vous connaissiez sûrement ce conte car c'est un classique, mais nous allons néanmoins l'aborder sans beaucoup de préparation et surtout en nous laissant conduire par la beauté de ce conte. Marie-Christine, ma première question est pour vous. Pourquoi avez-vous choisi ce conte ?
Ce qui m'a séduit, c'est les cygnes, la transformation des garçons en cygnes et puis comment retrouver son humanité. Et c'est la petite sœur qui va réussir à les sauver d'une certaine manière. Enfin oui, qui les sauve. Donc l'image des cygnes. Et cette fillette qui fait un sacrifice, qui ne parle pas, qui ne rit pas, pour sauver ses frères, pour leur permettre de redevenir humains.
On a une vraie héroïne là, alors.
Oui. Oui, qui, on s'y attend pas, elle est dans sa tour, elle brode. Bon, elle est plutôt... on la voit pas trop, quoi. Et elle va... c'est elle qui va accomplir le travail.
Oui, elle est relativement active parce qu'elle prend des décisions. Elle se laisse pas... Ouais. Elle n'est pas seulement le jouet du destin. Docteur Dominique Desmichel, en guise d'introduction, si nous nous mettons un instant dans le contexte d'une veillée, il y a un siècle ou deux, l'enfant raconte sa journée à sa grand-mère, il lui pose des questions. À quel genre d'interrogation ce conte pourrait répondre ? L'absence de la mère
Il y a une histoire de sorcière quand même là, hein, puisqu'on voit que les femmes dans ce récit sont diamétralement opposées en termes de qualité, on pourrait presque dire même en termes de moralité, puisqu'on trouve la première sorcière avec sa fille qui va se révéler quand même un petit peu une sorcière, la mère du deuxième roi, je mélange un tout petit peu parce que je viens juste de l'écouter là, qui a l'air aussi d'être quand même un petit peu problématique, hein, particulièrement violente, et qui renvoie en tout cas à la figure de l'ogre ou de l'ogresse, hein, ici pas tout à fait de la sorcière, puisque c'est de l'ogresse, hein, même si elle peut penser qu'elle simule un petit peu une ogressivité, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais on va l'occuper, on va l'inventer pour la circonstance. L'occasion. Voilà, en tout cas, il y a la figure de l'ogre, hein, c'est-à-dire celui qui dévore ses enfants. Hein. On peut rappeler que le plus souvent, la symbolique de l'ogre, c'est une symbolique de pédophilie, en fait, hein, c'est-à-dire on consomme l'enfant comme un objet. Voilà. Et puis, bien évidemment, ce qui est fondamental dans les contes, c'est-à-dire... Il y a une figure qui sauve, il y a une figure de presque rédemptrice, c'est-à-dire à la différence des grands mythes de la mythologie grecque, puis romaines, enfin essentiellement grecques au départ, qui sont avant le 7e, 8e siècle, on va dire avant Jésus-Christ, et qui se terminent le plus souvent tragiquement, là, il y a une figure qui change tout.
Alors rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet et voyons ce que ce conte a à nous dire. Alors on démarre avec le roi qui part à la chasse dans une forêt et donc là il fait la rencontre d'une sorcière. On a déjà des éléments, Marie-Christine, qu'on retrouve dans beaucoup de contes, la forêt enchantée, la sorcière, c'est du classique pour l'instant.
Oui, mais oui, la forêt c'est le lieu où on peut faire des rencontres curieuses, c'est un peu un autre monde où les mondes se croisent, s'entremêlent, et puis bien sûr une sorcière qui cherche à l'attirer et qui va l'entraîner vers des problèmes futurs.
Et donc il y a ce contrat de mariage fort étrange, docteur Dominique Desmichel. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors moi, j'aime bien m'interroger en me disant, dans la suite de ce que vous venez de dire, Marie-Christine, en me disant, bon, vous savez, c'est comme dans les films maintenant, souvent, il y a une grosse scène d'action au début, puis ensuite, il y a le générique. Mais on a posé la base du problème au départ. Donc là, on voit un roi qui part à la chasse et qui est fasciné par un cerf. Donc j'ai envie de me dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce cerf ? Qu'est-ce qu'il représente ? C'est évidemment une figure a priori masculine, a priori royale, peut-être plus que royale, peut-être une figure tutélaire, peut-être une figure d'ancêtre, en tout cas, c'est une figure masculine, et on voit bien que le roi, il n'arrive pas à rattraper cette figure masculine. Moi, j'aurais envie de dire, avec ce qui va suivre, ça ne m'étonne pas trop, c'est-à-dire, il n'arrive pas à trouver sa réelle virilité, je dirais, hein, sa masculinité d'homme, je dirais. Voilà. Et donc, il va se retrouver, comme vous l'avez dit, dans cet espace étrange où, qui représente, je dirais, dans ma perception, l'inconscient, c'est-à-dire cette espèce de masse énorme qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous a précédés, qui est largement plus vaste que notre petite conscience qui est simplement ce qui émerge de l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, il arrive et dans cette forêt. Et qu'est-ce qu'il rencontre ? Il rencontre une femme. Et il est perdu. Il est enfermé dans quelque chose. Alors, moi, j'ai envie de mettre une petite touche pause là, et je me dis, tiens, voilà, cet homme court après une vraie virilité intériorisée, et il rencontre une femme. Et du coup, j'ai envie de me dire, bon, alors, je sais pas, c'est quoi son expérience avec les femmes pour ce roi ? En gros, est-ce qu'il a eu une mère ? Est-ce qu'il a eu des sœurs ? Est-ce qu'il a eu une femme ? Et est-ce qu'il a eu des filles ? Et vous remarquerez que, si j'ai bien suivi et bien mémorisé votre récit, là où on en est, on n'en sait rien. Mmh. On n'en sait rien. Voilà. On va le savoir un petit peu plus. Ceux qui ont écouté attentivement votre récit savent qu'il y a quelque chose, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Et voilà donc ce roi qui arrive et qui rencontre quoi ? Qui rencontre deux niveaux de génération, dans une forêt pas particulièrement hospitalière. Il est coincé là-dedans et il rencontre une sorcière et une fille de sorcière dans un lieu qui a l'air complètement... voilà, on n'a pas envie d'y vivre.
Mais non, il est mal engagé quand même.
Hein. Ah, ouais. Plutôt mal engagé. Ouais,
ouais. Alors Marie-Christine, dans tous les contes, il y a des rois. Si on les compare, celui-ci, il se présente plutôt pas très bien. Quoi.
Oui, on sent qu'il c'est pas le roi puissant. En effet, on pourrait dire qu'il cherche qui il est, sa royauté. On pourrait dire aussi qu'il n'est pas à la hauteur. Il est perdu. Et en effet, il est perdu et... il accepte la première proposition qu'on lui fait pour sortir de cette forêt.
Mais la puissance de créatrice de l'inconscient collectif mis ici en scène par le comte lui dit qu'il ne va pas rencontrer une figure paternelle qui lui permettrait d'intégrer une royauté virile, c'est qu'il rencontre des femmes. Hein ouais. Donc, j'aurais envie de dire, en gros, son problème, c'est quand même autour de son féminin. C'est pour ça que moi, j'ai bien aimé quand vous dites que dans la forêt, il y a cette maison-là, il n'y a même pas de feu dans la cheminée. Déjà, une petite cabane, à l'époque, ça ne devait pas être terrible s'il n'y avait pas de feu, mais en plus, au milieu de la forêt. Hein. Donc, ça veut dire, dans son inconscient, il n'y a pas de féminin vivant. Il n'y a qu'une sorcière, une fille qui a une main glacée, glaçante ou glaciale, ou je ne sais pas trop quoi, mais enfin, bon, c'est pas très, très chaleureux, tout ça. Hein. Et voilà.
Et donc, ce contrat de mariage fort étrange est signé entre la sorcière et sa fille. Et voilà notre roi qui reprend le chemin de son petit royaume. Hein. Et là, on apprend qu'il avait en fait des enfants. Et donc, voilà l'énigme qui est résolue. Et le fait de l'avoir caché, déjà, ça vous évoque quelque chose, docteur Dominique Demichel ?
Moi, j'aurais tendance à penser plusieurs niveaux de lecture. Moi, j'aurais tendance à penser que le féminin de cet homme, il doit être à peu près aussi sexy que cette fille de sorcière. Hein. C'est-à-dire, je le sens pas trop dans un éros relationnel horizontal, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Hein. Je parle pas d'un éros maternel, parce qu'on va le revoir après. Il a un éros maternel, lui. Il a une fonction maternelle. On va le revoir un peu plus tard. Voilà. Donc, il rencontre une figure glacée et glaçante, je dirais, de sa féminité. Et la seule façon de ne pas mourir, c'est de faire alliance avec cette féminité mortifère. Il rentre au château, et puis on imagine que les noces, ça a dû être joyeux, hein, parce que vu la tête de la nana...
Belle quand même, hein, elle est belle. Elle est très froide, et lui, ça ne l'attire pas vraiment, mais c'est quand même une belle femme, elle fait une belle reine, elle a une apparence... on peut dire qu'elle est à la hauteur de la situation, en apparence.
L'autre élément que vous avez souligné là, tout à l'heure, c'est que c'est à ce moment-là qu'on apprend un tout petit peu de l'histoire de ce roi. Hein, puisqu'on se dit, on apprend au fond qu'il a 7 enfants. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, premièrement, il n'en parle pas à sa deuxième épouse. Deuxièmement, il déploie quand même une fonction maternelle, puisqu'il protège ses enfants. Et troisièmement, il n'y a en tout cas aucune parole qui est faite sur toute cette histoire. Rien n'est dit à ce moment-là. Hein. Donc on peut quand même penser que là, qu'il y a des tas de choses qui sont difficiles. C'est pour ça qu'on peut se demander si c'est pas l'anima de ce roi, c'est-à-dire sa polarité féminine là, qui est vraiment en difficulté dans ce conte.
Alors voilà nos personnages posés, et ainsi s'achèvera notre première émission avec le roi et bien sûr les 7 enfants. Alors on va terminer là-dessus, forcément le chiffre 7 dans tous les contes on le retrouve hein, souvent, hein, Marie-Christine.
Oui. Il y a une autre version.
Oui, ce sont 12, hein, il me semble. C'est 11, les 11 garçons plus une fille, dans la version d'Andersen, peut-être.
Oui, ouais. Et puis il y a un autre conte de Grimm, c'est les 7 corbeaux.
Mmh. Voilà.
Et avec un peu la même histoire.
Oui, qui est un peu la même histoire. Ouais.
Le chiffre 7, docteur Dominique Michel, c'est aussi un chiffre biblique.
Oui, c'est un chiffre biblique, c'est un chiffre très symbolique. Alors, les lectures symboliques des nombres, hein, comme des objets ou comme des animaux, c'est tellement polysémique qu'on peut en dire plein de choses. Moi, j'aurais envie de redire, parce qu'on va le retrouver après, c'est que le 7, c'est le temps de la création, par exemple, hein, sur le plan biblique, hein, par exemple, c'est le temps de la création avec ce dernier jour-là, qui est le temps de la transcendance, hein, après le temps de l'immanence. Donc le chiffre 4, c'est le plus souvent le chiffre de l'immanence, c'est-à-dire de la réalité, voilà, les 4 points cardinaux, les 4 saisons, enfin il y a des tas de choses comme ça. Et puis le 3, c'est le triangle, hein, le triangle dressé, le triangle vertical. Hein, donc il y a une horizontalité, une immanence dans le 4, et il y a une verticalité, une transcendance dans le 3. Le 4 plus 3, ça fait 7, c'est une idée de totalité.
Eh bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous deux, et à dans 15 jours.